conte de la Bécasse, Guy de Maupassant, Saint-Antoine. 3 avril 1883. On l'appelait Saint-Antoine parce qu'il se nommait Antoine, et aussi peut-être parce qu'il était bon vivant, joyeux, farceur, puissant mangeur et fort buveur, et vigoureux trousseur de servantes, bien qu'il eût plus de 60 ans. C'était un grand paysan du pays de Caux, haut en couleur, gros de poitrine et de ventre, et perché sur de longues jambes qui semblaient trop maigres pour l'ampleur du corps. Veuf, il vivait seul avec sa bonne et ses 2 valets dans sa ferme, qu'il dirigeait en madré-compère, soigneux de ses intérêts, entendu dans les affaires et dans l'élevage du bétail et dans la culture de ses terres. Ses 2 fils et ses 3 filles, mariés avec avantage, vivaient aux environs et venaient, une fois par mois, dîner avec le père. Sa vigueur était célèbre dans tout le pays d'alentour. On disait en manière de proverbe « Il est fort comme Saint-Antoine ». Lorsqu'arriva l'invasion prussienne, Saint-Antoine, au cabaret, promettait de manger une armée, car il était hâbleur comme un vrai Normand, un peu couard et fanfaron. Il tapait du poing sur la table de bois, qui sautait en faisant danser les tasses et les petits verres, et il criait, la face rouge et l'œil sournois, dans une fausse colère. Et de bon vivant. Faudra que j'en mange, nom de Dieu! Il comptait bien que les Prussiens ne viendraient pas jusqu'à Tanneville. Mais lorsqu'il apprit qu'ils étaient à Rotteau, il ne sortit plus de sa maison, et il guettait sans cesse la route, par la toute petite fenêtre de sa cuisine, s'attendant à tout moment avoir passé des baïonnettes. Un matin, comme il mangeait la soupe avec ses serviteurs, la porte s'ouvrit et le maire de la commune, maître Chicot, parut, suivi d'un soldat coiffé d'un casque noir à pointe de cuivre. Saint-Antoine se dressa d'un bond et tout son monde le regardait, s'attendant à le voir écharper le Prussien. Mais il se contenta de serrer la main du maire, qui lui dit « En v'là un pour toi, Saint-Antoine. Ils sont venus cette nuit. Fais pas de bêtises, surtout, vu qu'ils parlent de fusiller et de brûler tout, si seulement il arrive à la moindre chose. Te v'là prévenu. Donne-lui à manger, il a l'air d'un bon gars. Allez, bonsoir, je vais aller chez les autres. Il y en a pour tout le monde. » Et il sortit. Le père Antoine, devenu pâle, regarda son Prussien. C'était un gros garçon à la chair grasse et blanche, aux yeux bleus, aux poils blonds, barbu jusqu'aux pommettes, qui semblait idiot, timide et bon enfant. Le Normand, malin, le pénétra tout de suite et, rassuré, lui fit signe de s'asseoir. Puis il lui demanda « Voulez-vous de la soupe ?» L'étranger ne comprit pas. Antoine, alors, eut un coup d'audace, et lui poussant sous le nez une assiette pleine, « Tiens, avale ça, gros cochon !» Le soldat répondit « Ya !» et se mit à manger goulûment, tandis que le fermier triomphant, sentant sa réputation reconquise, clignait de l'œil à ses serviteurs qui grimaçaient étrangement, ayant en même temps grand-peur et envie de rire. Quand le Prussien eut englouti son assiettée, Saint-Antoine lui en servit une autre, qu'il fit disparaître également, mais il recula devant la 3e, que le fermier voulait lui faire manger de force, en répétant « Allons, fous-toi ça dans le ventre, t'engraisseras ou tu diras pourquoi va, mon cochon !» Et le soldat, comprenant seulement qu'on voulait le faire manger tout son soûl, riait d'un air content, en faisant signe qu'il était plein. Alors, Saint-Antoine, devenu tout à fait familier, lui tapa sur le ventre, en criant « Y a-t-il dans la bedaine, hein, mon cochon ?» Mais soudain, il se tordit, rouge à tomber d'une attaque, ne pouvant plus parler. Une idée lui était venue, qui le faisait étouffer de rire. C'est ça, c'est ça. Saint Antoine et son cochon, voilà mon cochon. Et les trois serviteurs éclatèrent à leur tour de rire. Le vieux était si content qu'il fit apporter l'eau-de-vie, la bonne, et qu'il en régala tout le monde. On trinqua avec le Prussien, qui claqua de la langue par flatterie pour indiquer qu'il trouva ça fameux. Et saint Antoine lui criait dans le nez « Hein, en v'là de la fine! T'en bois pas comme ça chez toi, mon cochon !» Dès lors, le père Antoine ne sortit plus sans son Prussien. Il avait trouvé là son affaire. C'était sa vengeance à lui, sa vengeance de gros malin. Et tout le pays, qui crevait de peur, riait à se tordre derrière le dos des vainqueurs de la force de Saint-Antoine. Vraiment, dans la plaisanterie, il n'avait pas son pareil. Il n'y avait que lui pour inventer des choses comme ça. Cré coquin, va. Il s'en allait chez les voisins, tous les jours après-midi, bras dessus, bras dessous avec son Allemand, qu'il présentait d'un air gai en lui tapant sur l'épaule. « Venez, v'là mon cochon, regardez-moi s'il s'engraisse bas, cet animal-là » Et les paysans s'épanouissaient. « Est-il donc rigolo, ce bouc d'Antoine ? Je te le vends, Césaire, trois pistolets. Je te le prends, Antoine, et je t'invite à manger du boudin. Mais ce que je veux, c'est de ses pieds. T'as de l'ivant, tu verras qu'il n'y a que de la graisse. » Et tout le monde clignait de l'œil sans rire trop haut, cependant, de peur que le Prussien devinât à la fin qu'on se moquait de lui. Antoine, seul, s'enhardissant tous les jours, lui pinçait les cuisses en criant « Rien que du gras !» lui tapait sur le derrière en hurlant « Tout ça de la couenne !» l'enlevait dans ses bras de vieux colosses capables de porter une enclume en déclarant « Il pèse 600 et pas de déchets !» Et il avait pris l'habitude de faire offrir à manger à son cochon partout où il entrait avec lui. C'était là le grand plaisir, le divertissement de tous les jours. « Donnez-lui ce que vous voudrez, il avale tout !» Et on offrait à l'homme du pain et du beurre, des pommes de terre, du fricot froid, de l'andouille qu'il faisait dire « De la vôtre et du choix !» Le soldat, stupide et doux, mangeait par politesse. Enchanté de ses attentions, se rendait malade pour ne pas refuser. Et il engraissait vraiment, serré maintenant dans son uniforme, ce qui ravissait Saint-Antoine et lui faisait répéter « Tu sais, mon cochon, faudra te faire une autre cage !» Ils étaient devenus d'ailleurs les meilleurs amis du monde. Et quand le vieux allait à ses affaires dans les environs, le Prussien l'accompagnait de lui-même pour le seul plaisir d'être avec lui. Le temps était rigoureux, il gelait dur. Le terrible hiver de 1870 semblait jeter ensemble tous les fléaux sur la France. Le père Antoine, qui préparait les choses de loin et profitait des occasions, prévoyant qu'il manquerait de fumier pour les travaux du printemps, acheta celui d'un voisin qui se trouvait dans la gêne. Et il fut convenu qu'il irait chaque soir avec son tombereau chercher une charge d'engrais. Chaque jour, donc, il se mettait en route à l'approche de la nuit et se rendait à la ferme des Halles, distante d'une demi-lieue, toujours accompagné de son cochon. Et à chaque jour, c'était une fête de nourrir l'animal. Tout le pays accourait là comme on va le dimanche à la grande messe. Le soldat, cependant, commençait à se méfier. Et quand on riait trop fort, il roulait des yeux inquiets qui, parfois, s'allumaient d'une flamme de colère. Or, un soir, quand il eut mangé à sa contenance, il refusa d'avaler un morceau de plus. Et il essaya de se lever pour s'en aller. Mais Saint-Antoine l'arrêta, d'un tour de poignet et lui posant ses deux mains puissantes sur les épaules, il le rassit, si durement que la chaise s'écrasa sous l'homme. Une gaieté de tempête éclata, et Antoine, radieux, ramassant son cochon, fit semblant de le panser pour le guérir. Puis il déclara « Puisque tu ne veux pas manger, tu vas boire, nom de Dieu !» et on alla chercher de l'eau-de-vie au cabaret. Le soldat roulait des yeux méchants, mais il but néanmoins. Il but tant qu'on voulut, et Saint-Antoine lui tenait la tête à la grande joie des assistants. Le Normand, rouge comme une tomate, le regard en feu, emplissait les verres, trinquait en gueulant « À la tienne !» Et le Prussien, sans prononcer un mot, entonnait coup sur coup des lampées de cognac. C'était une lutte, une bataille, une revanche, à qui boirait le plus, nom de nom. Il n'en pouvait ni l'un ni l'autre, quand le litre fut séché. Mais aucun des deux n'était vaincu. Il s'en allait, manche à manche, voilà tout. Faudrait donc recommencer le lendemain. Ils sortirent en titubant et se mirent en route à côté du tombereau de fumier que traînaient lentement les deux chevaux. La neige commençait à tomber, et la nuit sans lune s'éclairait tristement de cette blancheur morte des plaines. Le froid saisit les deux hommes, augmentant leur ivresse, et Saint-Antoine, mécontent de n'avoir pas triomphé, s'amusait à pousser de l'épaule son cochon pour le faire culbuter dans le fossé. L'autre évitait les attaques par des retraites, et chaque fois, il prononçait quelques mots allemands sur un ton irrité qui faisait rire aux éclats le paysan. À la fin, le Prussien se fâcha, et juste au moment où Antoine lui lançait une nouvelle bourrade, il répondit par un coup de poing terrible qui fit chanceler le colosse. Alors, enflammé d'eau-de-vie, le vieux saisit l'homme à bras-le-corps, le secoua quelques secondes comme il eût fait d'un petit enfant, et il le lança à toute volée de l'autre côté du chemin. Puis, content de cette exécution, il croisa ses bras pour rire de nouveau. Mais le soldat se releva vivement, nu-tête, son casque ayant roulé, et dégainant son sabre, il se précipita sur le père Antoine. Quand il vit cela, le paysan saisit son fouet par le milieu, son grand fouet de houx, droit, fort et souple, comme un nerf de bœuf. Le Prussien arriva, le front baissé, l'arme en avant, sûr de tuer. Mais le vieux, attrapant à pleine main la lampe dont la pointe allait lui crever le ventre, l'écarta, et il frappa d'un coup sec sur la tempe avec la poignée du fouet son ennemi qui s'abattit à ses pieds. Puis il regarda, effaré, stupide d'étonnement, le corps d'abord secoué de spasmes, puis immobile sur le ventre. Il se pencha, le retourna, le considéra quelque temps. L'homme avait les yeux clos, et un filet de sang coulait d'une fente au coin du front. Malgré la nuit, le père Antoine distinguait la tache brune de ce sang sur la neige. Il restait là, perdant la tête, tandis que son tombereau s'en allait toujours au pas tranquille des chevaux. Qu'allait-il faire? Il serait fusillé, on brûlerait sa ferme, on ruinerait le pays. Que faire? Mais que faire? Comment cacher le corps, cacher la mort, tromper les Prussiens? Il entendit des voix au loin, dans le grand silence des neiges. Alors il s'affola, et ramassant le casque, il recoiffa sa victime, puis l'empoigna par les reins. Il enleva, courut, rattrapa son attelage, et lança le corps sur le fumier. Une fois chez lui, il aviserait. Il allait à grands pas, se creusant la cervelle, ne trouvant rien. Il se voyait, il se sentait perdu. Il rentra dans la cour. Une lumière brillait à une lucarne. Sa servante ne dormait pas encore. Alors, il fit vivement reculer sa voiture jusqu'au bord du trou à l'engrais. Il songeait qu'en renversant la charge, le corps posé dessus tomberait dessous, dans la fosse, et il fit basculer le tombereau. Comme il l'avait prévu, l'homme fut enseveli sous le fumier. Antoine aplanit le tas avec sa fourche, puis la planta dans la terre à côté. Il appela son valet, ordonna de mettre les chevaux à l'écurie, et il rentra dans sa chambre. Il se coucha, réfléchissant toujours à ce qu'il allait faire, mais aucune idée ne l'illuminait. Son épouvante allait croissant dans l'immobilité du lit. On le fusillerait. Il suait de peur, ses dents claquaient. Il se releva, grelottant, ne pouvant plus tenir dans ses draps. Alors, il descendit à la cuisine, prit la bouteille de fine dans le buffet et remonta. Il but deux grands verres de suite, jetant une ivresse nouvelle par-dessus l'ancienne, sans calmer l'angoisse de son âme. Il avait fait là un joli coup, nom de Dieu d'imbécile. Il marchait maintenant de long en large, cherchant des ruses, des explications et des malices, et de temps en temps, il se rinçait la bouche avec une gorgée de fine pour se mettre du cœur au ventre. Et il ne trouvait rien, mais rien. Vers minuit, son chien de garde, une sorte de demi-loup qu'il appelait dévorant, se mit à hurler à la mort. Le père Antoine frémit jusqu'à dans les moelles, et chaque fois que la bête reprenait son gémissement lugubre et long, un frisson de peur courait sur la peau du vieux. Il s'était abattu sur une chaise, les jambes cassées, hébété, n'en pouvant plus, attendant avec anxiété que dévorant recommençât sa plainte, et secoué par tous les sursauts dans la terreur, fait vibrer nos nerfs. L'horloge d'en bas sonna 5 heures. Le chien ne se taisait pas. Le paysan devenait fou. Il se leva pour aller déchaîner la bête, pour ne plus l'entendre. Il descendit, ouvrit la porte, s'avança dans la nuit. La neige tombait toujours. Tout était blanc. Les bâtiments de la ferme faisaient de grandes taches noires. L'homme s'approcha de la niche. Le chien tirait sur sa laisse. Il le lâcha. Alors, dévorant fit un bond, puis s'arrêta net, le poil hérissé, les pattes tendues, les crocs au vent, le nez tourné vers le fumier. Saint-Antoine, tremblant de la tête aux pieds, balbutia « Que t'as donc, sale rosse ?» Et il avança de quelques pas, fouillant de l'œil l'ombre indécise, l'ombre terne de la cour. Alors, il vit une forme d'homme, assis sur son fumier. Il regardait cela, perclus d'horreur et haletant. Mais, soudain, il aperçut auprès de lui le manche de sa fourche piqué dans la terre. Il l'arracha du sol, et dans un de ces transports de peur qui rendent téméraires les plus lâches, il se rua en avant pour voir. C'était lui, son Prussien, sorti fangeux de sa couche d'ordure qu'il avait réchauffée, ranimée. Il s'était assis machinalement, et il restait là, sous la neige qui le poudrait, souillé de saleté et de sang, encore hébété par l'ivresse, étourdi par le coup, épuisé par sa blessure. Il aperçut Antoine, et trop abruti pour rien comprendre, il fit un mouvement afin de se lever, mais le vieux, dès qu'il l'eut reconnu, écuma ainsi qu'une bête enragée. Il bredouillait « Ah, cochon, cochon, t'es pas mort ! Je vais me dénoncer à cette heure, attends, attends !» Et se lançant sur l'Allemand, il jeta en avant de toute la vigueur de ses deux bras sa fourche levée comme une lance, et il lui enfonça jusqu'au manche les 4 pointes de fer dans la poitrine. Le soldat se renversa sur le dos, en poussant un long soupir de mort, tandis que le vieux paysan retira son arme des plaies, la replongeait coup sur coup dans le ventre, dans l'estomac, dans la gorge, frappant comme un forcené, trouant de la tête aux pieds le corps palpitant dont le sang fuyait par gros bouillons. Puis, il s'arrêta, et soufflait de la violence de sa besogne, aspirant l'air à grandes gorgées, apaisé par le meurtre accompli. Alors, comme les coqs chantaient dans les poulaillers et comme le jour allait poindre, il se mit à l'œuvre pour ensevelir l'homme. Il creusa un trou dans le fumier, trouva la terre, fouilla plus bas encore, travaillant d'une façon désordonnée, dans un emportement de force avec des mouvements furieux des bras et de tout le corps. Lorsque la tranchée fut assez creuse, il roula le cadavre dedans avec la fourche, rejeta la terre dessus, la piétina longtemps, remit en place le fumier, et il sourit en voyant la neige épaisse qui complétait sa besogne et couvrait les traces de son voile blanc. Puis, il repiqua sa fourche sur le tas d'ordures et rentra chez lui. Sa bouteille, encore à moitié pleine d'eau-de-vie, était restée sur une table. Il la vida d'une haleine, se jeta sur son lit et s'endormit profondément. Il se réveilla dégrisé, l'esprit calme et dispos, capable de juger le cas et de prévoir l'événement. Au bout d'une heure, il courait le pays en demandant partout des nouvelles de son soldat. Il alla trouver les officiers pour savoir, disait-il, pourquoi on lui avait repris son homme. Comme on connaissait leur liaison, on ne le soupçonna pas. Et il dirigea même les recherches en affirmant que le Prussien allait chaque soir courir le cotillon. Un vieux gendarme en retraite, qui tenait une auberge dans un village voisin et qui avait une jolie fille, fut arrêté et fusillé.